Bonjour, je suis Sacha Capdevielle et je vous accueille sur la chaîne de podcast de l'Observatoire des sciences de l'univers, Institut Pythéas. Vous entendrez ici des scientifiques venant de différentes disciplines, allant des profondeurs de l'océan aux confins de l'univers, vous parler de leurs recherches et de leurs innovations. Bienvenue sur Immerscience, la science qui résonne, et maintenant, place à l'épisode. Je me trouve aujourd'hui dans l'intimité de l'appartement d'un explorateur français de renom, j'ai nommé Jean-Louis Etienne, pour en apprendre plus sur son dernier projet, le Polarpod. Cette sorte de bateau vertical permettant de faire le tour de l'Antarctique en empruntant le courant circumpolaire pour apporter de précieuses données scientifiques. Il le qualifie comme la cathédrale de sa carrière et fera lui-même partie de l'expédition. Mais alors, comment un tel projet voit-il le jour? Et qu'est-ce qui motive un homme qui raconte si bien les histoires à vouer sa vie au pôle? Vous allez bientôt le savoir, installez-vous confortablement. Il était une fois le Polarpod.
L'origine de l'expédition Polarpod, elle vient de que les publications scientifiques sur l'océan austral de tous les pays se terminent un peu par la même phrase. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Parce que cet océan, il est loin, il est difficile d'accès. Ce sont des missions coûteuses. Elles se font essentiellement l'été. Par exemple, la France a le Marion Dufresne et fait des travaux entre la Réunion sur l'océan Indien, entre la Réunion et Kerguelen. Et donc, il y a, en dehors de ces périodes estivales, il n'y a pas de mission. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé. Quel type de vaisseau permettrait à une équipe de chercheurs de séjourner sur cet océan? Là, l'océan austral, on parle quand même des 50e hurlants. Ce sont des zones 40e, 50e, ce sont des zones très ventées. Quel type de vaisseau permettrait de séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort? Et donc je me suis rapproché d'un bureau d'études qui est à Lorient, Chipesté, de Grand Mermier. Et donc on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait échapper à la surface. Vous voyez, la surface en mer, c'est là où le vent et la mer se rencontrent, ça fait des vagues. Et donc le bateau est posé forcément à la surface, donc il est contraint par les vagues, il bouge. Et donc il faut un navire vertical, un flotteur vertical, qui va descendre profond, donc avec 80 mètres de tirant d'eau, entre 75 et 80 mètres de tirant d'eau, avec un lest de 150 tonnes au fond, on a déjà une structure qui est prise dans des eaux profondes, stables, et à la surface, on a un treillis, c'est-à-dire trois tubes, et la mer nous passe à travers, nous percute pas. Donc on est parti sur ce principe-là, on l'a dessiné, on a fait des maquettes, on les a essayées dans des bassins à vagues, à l'école centrale de Nantes, à Ifremer, à Brest. Et donc, le navire en question, ce navire vertical, répond à nos attentes et il est très stable dans la grosse mer. Une grande part de l'étude a été, effectivement, d'amener le Polarpod dans le courant circumpolaire. Donc, il est étudié, le Polarpod, pour être tracté à l'horizontale. Vous voyez, donc on va l'amener à l'horizontale. Et une fois arrivé au point de départ, on va ballaster, c'est-à-dire qu'il y a des réservoirs qu'on va remplir d'eau de mer, et petit à petit, il va passer à la verticale pour avoir sa position de dérive. Et ça a demandé beaucoup de travail. Et une autre caractéristique de ce travail, ça a été de mesurer la période du Polarpod. Je m'exprime. Le Polarpod, il va quand même être un peu soumis à l'ascension des vagues. C'est ce qui nous rend malade en général. Vous voyez, quand ça monte, quand ça redescend. Le Polarpod, il a une fréquence de pilonnement. Le pilonnement, c'est le mouvement de haut en bas, vous voyez, quand on pilonne comme ça. Il a une fréquence de 60 secondes. Et la fréquence de la houle de l'océan austral, c'est 20 secondes. Donc on est déphasé par rapport à la houle. Si bien que cette fréquence de pilonnement, elle est très longue. Et c'est un travail qui a pris du temps pour arriver à ce décalage entre la fréquence de la houle et la fréquence du polar pod, de manière à ce que la vie à bord soit tout à fait acceptable, viable, parce que à bord, donc je le répète, il y aura des marins qui sont des professionnels, des scientifiques qui sont professionnels, ils viennent dans le cadre de leur travail, on nous a demandé de faire une étude du mal des transports, et donc cette étude de période nous permet de dire qu'il est confortable, beaucoup plus confortable qu'un bateau, ça n'a rien à voir. Il y a quelque chose de spécial à sa structure, il est vertical et donc il va être soumis des torsions sur la hauteur qu'on appelle des mouvements de lacets, c'est-à-dire quelques mouvements brusques comme ça, et ces mouvements de lacets, ils sont de 0,3 G, hein, l'accélération, 0,3 G, c'est ce que vous ressentez quand dans le TGV vous allez au bar, vous voyez, de temps en temps, on a cette secousse-là, c'est 0,3 G, c'est tout à fait compatible avec le travail.
Cet engin est en effet une véritable prouesse scientifique. Et ce n'est pas sans mal que les meilleurs ingénieurs ont réussi à lui donner une forme adaptée pour permettre la vie à bord. Mais d'ailleurs, comment cette vie entre travail et quotidien s'organise-t-elle ?
Alors, ce que je viens de décrire, c'est la partie flotteur et la partie immergée. Personne n'est sous l'eau, ce n'est qu'un flotteur et on habite dans la nacelle qui a une dizaine de mètres au-dessus de l'eau, qui fait 20 mètres de hauteur. Et qu'il y a plusieurs étages. Il y aura à bord 8 personnes, 3 marins, des officiers de marine marchande, 3 ingénieurs scientifiques océanographes, plus 2 autres personnes, possibilités en fonction des demandes et en fonction des attentes, qui peut être moi de temps en temps ou d'autres personnes. Donc il y a une partie habitable. Alors c'est pas très grand, hein, mais il y a une partie de lieu de vie qui est pour 8 personnes assez, par rapport à un navire ou un navire de plaisance, vous voyez, on est un peu les uns sur les autres, mais là il y a assez de place, il y a un étage laboratoire, labo sec, labo humide, il y a une partie informatique, communication, parce qu'en fait, une grande majorité des mesures qui seront, des données qui seront acquises sur le terrain, une grande majorité seront transmises en temps réel. Donc il y a un traitement des données, envoi, etc. Donc c'est, si vous voulez, c'est un peu comme la Station Spatiale Internationale, qui est en orbite autour de la Terre. Et nous, c'est un peu pareil. Les 8 personnes qui seront à bord seront en orbite autour de l'Antarctique et resteront là pour une période de 2 mois et seront relayées grâce à un navire ravitailleur, le Persévérance, qui tous les 2 mois viendra faire l'avitaillement et les relèves d'équipage. Il nous est demandé par la communauté scientifique, donc il y a un comité scientifique qui est composé donc d'IFREMER, du CNRS, du CNES et moi en tant qu'opérateur sur le terrain. Il m'a été demandé de faire 2 fois le tour de l'Antarctique parce qu'effectivement on va se déplacer avec le courant, il n'y a pas de marche arrière. Donc si on trouve une zone intéressante, c'est un peu ce qui a été développé, ben, c'est intéressant de confirmer une première étude qui serait faite autour de l'océan. Ça devrait durer 18 mois normalement, un tour. C'est un tour du monde par les 50e Hurlants, vous voyez. Ça devrait durer 18 mois, c'est-à-dire 1 an et demi. Et il nous a été demandé, pour valider les mesures déjà, de faire 2 tours. Donc 2 tours, c'est 3 ans. Avec, donc personne ne reste 3 ans, bien sûr, comme je l'ai évoqué, il y a des relèves d'équipage tous les 2 mois, grâce à un navire ravitailleur, Persévérance. Et ce bateau restera en permanence au service du Polar Pod, dans le port le plus proche, pour assurer la sécurité. Et puis, tous les 2 mois, il fera cette relève d'équipage et avitaillement.
Durant toute la durée de l'expédition, le Polar Pod utilisera le courant circumpolaire antarctique pour se déplacer et faire ainsi 2 fois le tour du continent sans utiliser d'énergie fossile. Mais comment fonctionne ce courant et quelles sont ses particularités ?
Alors ce courant, c'est un courant de surface. Il a quand même une épaisseur 100-150 mètres, vous voyez, et il est nourri, ce courant, il est alimenté par ces vents d'ouest qui soufflent en permanence autour de l'Antarctique que les marins appellent les 40e rugissant ou hurlant, ou les 50e, enfin, ce sont des zones très ventées. Et ces vents d'ouest, ces régimes quasi constants, si vous voulez, entretiennent ce courant de surface qu'on appelle le courant circumpolaire antarctique, parce qu'il fait le tour du continent antarctique. Et on voit bien, quand on regarde une carte avec l'Antarctique au milieu, quand le pôle sud devant soi, on voit bien que cet océan qui entoure l'Antarctique, c'est une courroie de transmission entre les eaux de l'Atlantique, de l'Indien et du Pacifique. Donc il a ce rôle aussi de brassage entre les trois grands bassins océaniques. Donc ce courant, nous allons l'emprunter, ça sera le moteur du Polar Pod. Polar Pod, donc j'en profite pour dire, c'est un navire qui est silencieux, zéro émission, dans le sens où le moteur, c'est le courant, et l'électricité, donc l'énergie, c'est le vent. On va avoir 6 éoliennes sur le Polar Pod qui vont donner de l'autonomie totale à la fois pour la vie à bord et la science. Polar Pod, donc, c'est un navire qui est zéro émission de carbone, puisque, encore une fois, on n'a pas de moteur de propulsion et on n'a pas de groupe électrogène. On a un groupe électrogène de secours et un moteur de propulsion de secours, mais le courant, c'est le principal moteur et le vent va nous fournir l'énergie. Donc c'est un navire à la fois zéro émission. Le navire ravitailleur est un navire, c'est une goélette avec deux mâts de 42 mètres à voile. Donc on se rapproche beaucoup d'une première campagne quasi ou très proche de zéro émission, dans la mesure où le bateau ravitailleur est sa principale propulsion, c'est la voile. Et donc je disais que ce silence fait que on va exploiter la structure du Polar Pod pour l'équiper d'hydrophones, c'est-à-dire des micros sous l'eau qui vont nous permettre de faire un programme acoustique. Et donc qui dit acoustique effectivement dit inventaire de faune, puisqu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Et donc le Polar Pod, par sa capacité silencieuse, va permettre de nous faire un inventaire de la faune par acoustique passive.
De nombreux programmes scientifiques prennent bien évidemment place dans ce projet et plusieurs axes de recherche sont développés pour tirer tous les avantages d'une telle expédition.
Une particularité de cet océan, c'est une immensité d'eau froide. C'est de l'eau entre 1, des fois un peu 0, peut-être au cœur de l'hiver, 8 degrés au maximum. Donc c'est une surface d'eau froide. C'est géant. Ça fait 22 000 km de circonférence. Donc c'est une immensité d'eau froide. Et le gaz carbonique que l'on émet annexé, le CO2, se dissout prioritairement dans les eaux froides. Ce qui fait de l'océan Austral le principal puits de carbone océanique de la planète. Et donc, la stabilité verticale du Polar Pod va permettre de faire des mesures de précision, d'échange entre l'air et l'océan, dont la capacité de cet océan à dissoudre le gaz carbonique. Donc on voit bien que l'océan Austral, à travers déjà cette performance, est un acteur majeur du climat, donc nous allons mesurer, si vous voulez, les capacités, et on va le faire pendant 3 ans, c'est-à-dire aux 4 saisons et sous toutes les longitudes, ce qui va nous permettre vraiment d'avoir une valeur très précise sur ce puits de carbone océanique qu'est l'océan Austral. Ensuite, il y a, donc je l'ai évoqué, le navire est silencieux et donc va nous permettre de faire un inventaire de la faune par acoustique. Mais au-delà, on écoute l'écoute passive et puis il y a de l'écoute active. On peut écouter à distance même des vélages d'iceberg. Aujourd'hui, on est capable, si vous voulez, de mesurer, à travers le bruit que l'on perçoit, les précipitations en mer. Vous voyez, à terre, on peut mesurer les précipitations. La pluie tient, il a plu 2 cm, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais sur l'océan, il n'y a rien. Alors qu'il pleut beaucoup aussi sur l'océan. Et pour caractériser effectivement les pluies sur l'océan, il y a des programmes acoustiques qui sont assez poussés aujourd'hui et qui permettent, par le bruit, le cliquettement des gouttes d'eau qui tombent sur l'océan, de caractériser l'abondance des précipitations. Donc il y a un programme acoustique dans ce sens, ça c'est l'acte, le volet 2. Ensuite, bien sûr, on a impact anthropique, c'est-à-dire on va faire des analyses d'eau de mer et regarder si loin on trouve des pesticides, des organochlorés, des métaux lourds, des microplastiques, vous voyez, tout ça. Et ensuite, quatrièmement, les agences spatiales nous ont demandé la calibration, validation des mesures satellites. Les satellites sont les observateurs de la Terre formidables, quoi, hein. L'avantage du satellite, d'abord aujourd'hui on fait des capteurs d'une très grande précision, très variés. Ensuite la force du satellite c'est qu'il passe et il repasse. Vous voyez. C'est-à-dire que si on veut parler d'une évolution d'un process, le satellite permet ça par la persévérance avec laquelle il passe, vous voyez, et ça dure des années. Voilà. Mais on a besoin au sol de calibrer la mesure. Et en anglais, ils appellent ça le ground truth, la vérité terrain. Donc dans le secteur où nous allons, on va caractériser les états de mer, la vitesse du vent, le creux des vagues et la couleur de l'océan. La couleur de l'océan. Vous voyez, l'océan, il est bleu, mais il est vert aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phytoplancton, des petites microalgues, qui sont le point de départ de la vie marine. Et donc le rayonnement solaire qui se réfléchit sur une petite algue est réfléchi et capté par le satellite. On a des capteurs, il se fait des capteurs aujourd'hui qui permettent par analyse de la réflexion du rayonnement solaire sur, par exemple, un type de phytoplancton, de dire ce que c'est et d'en témoigner de l'abondance, donc de la richesse de la vie dans ce secteur, puisque le phytoplancton est le point de départ de toutes les vies. Donc voilà les quatre axes de recherche principaux que nous avons.
Les équipes à bord du PolarPod seront réduites. Quelques marins, une poignée de scientifiques et parfois un invité spécial. Cependant, dans un secteur aussi mouvementé et face à des conditions météorologiques capricieuses, quels sont les risques principaux et qu'en est-il de la préparation pour les minimiser?
Alors, il est évident qu'on va avoir de la très grosse mer. C'est les fameux 50e hurlant. On sait que ça souffle. Des essais ont été faits très poussés sur le PolarPod. Il est validé par ce qu'on appelle le Bureau Veritas, qui est une agence de certification, qui nous ont demandé d'affronter la vague cinquantennale. La vague cinquantennale, c'est la plus grosse vague statistique, hein, qui peut apparaître sur une période de 50 ans. Voilà. Et donc, c'est une vague d'ordinateurs, moi j'appelle ça, vous voyez. C'est des études statistiques qui fait que tout d'un coup, cette vague émerge, une vague d'algorithmes qui émerge. Elle fait 38 mètres de creux à crête. Je pense que s'il y en a un qui l'a vu, il n'est pas revenu. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'elle a existé? Peu importe, c'est le fruit de calculs d'ingénieurs. Voilà. 38 mètres de haut, de creux à crête. Elle passe tous les 18 secondes. Et c'est une tempête qui dure 3 heures. Voilà les résultats de l'ordinateur. Donc, nous devons considérer cette exigence du Bureau Veritas. Et donc, on a fait une maquette, on a fait plusieurs maquettes, dont une qui ne soit pas géante, elle fait 1,50 m, qui permettent de simuler la vague de 38 mètres. Donc, on a fait ça au bassin à vagues d'Ifremer à Brest. Et voilà. Et donc, il se passe ce que Laurent Mermier, le bureau d'études Chipesté, avait prévu, c'est qu'elle touche le PolarPod jusqu'en haut de la nacelle. Donc, elle le plie comme ça, elle le couche à l'horizontale, et tel le culbuto, il revient. Donc c'est ce qu'on avait prévu. Alors il est évident que cette tempête ne va pas arriver d'un coup. On va s'y préparer, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est effectivement le pire des cas qui nous est proposé. La partie aventure, ça sera les relèves d'équipage. Vous voyez, ça va se faire en pleine mer, dans un secteur où il y a de la houle quand même. Même quand il n'y a pas du vent, il y a de la houle. Donc nous avons prévu sur le navire Persévérance ça s'appelle un radier, c'est un pan à l'arrière du bateau qui permet de mettre à l'eau le Zodiac avec les personnes à bord, venir à la verticale des deux ailes, ou d'une des ailes que nous avons, et les personnes seront treuillées, ainsi que les colis. Donc effectivement, ça c'est la partie où on va tout d'un coup, hop, treuillé, et celui qui part, qui quitte le bord, sera descendu, pareil. Donc ça c'est la partie aventure, mais elle est assez maîtrisée aujourd'hui par les gens qui font du secours en mer, surtout par les militaires ou qui font de l'hélitreuillage, vous voyez. Et donc, nous allons tous faire des stages de préparation à ce treuillage en mer, de manière à être décontracté le jour où ça va se passer en pleine mer.
L'influence de sa vie passée et de nombreuses autres expéditions ont permis à Jean-Louis et Étienne de garder le cap dans cette nouvelle aventure sur laquelle il travaille depuis 12 ans. Plus le sommet est haut, plus l'ascension est longue, mais sa soif de connaissance et sa ténacité auront eu raison des doutes.
Alors, Polar Pod, j'aime dire, c'est ma cathédrale, quoi. C'est le plus lourd, le plus gros projet que j'ai mené. J'ai mené déjà des projets un peu complexes, un peu lourds aussi, quand j'ai fait construire Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui. Et je l'ai fait, Tara, avec un objectif, c'était d'étudier l'océan Arctique. On a eu, il n'y a pas très longtemps, des informations sur la redécouverte de l'Endurance, qui était le navire de Shackleton. Le navire de Shackleton, c'était un baleinier qui était fait pour les régions polaires, mais il n'était pas fait pour être pris par les glaces. C'était un bateau à flancs verticaux. Et le bateau à flancs vertical, il s'est créé de la place un peu en poussant la banquise, mais à un moment donné, il n'y arrivait plus à progresser. Il y a eu, comme dans toutes les dérives de banquise, une compression qui a écrasé le bateau et qui a coulé. Et Tara, donc Antarctica, quand je l'ai fait construire, a cette forme très ronde et très solide. Si jamais il s'est fait serrer, l'écrasement fait que tout d'un coup, ça passe dessous et le bateau échappe à l'écrasement. Donc, pour revenir à mes divers chantiers, Antarctica, c'était déjà une grosse aventure technologique, une aventure de chef d'entreprise. Moi, je suis un chef d'entreprise, vous voyez, au sens où une expédition, c'est comme une entreprise. Donc, il y a une idée que je développe, à laquelle je tiens. En général, c'est mon idée. Moi, je me cultive beaucoup sur les sciences de la vie, les sciences de la Terre, et j'aime aller dans un coin qui est difficile d'accès, vous voyez. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va construire? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, vous savez, au départ, je suis tourneur-fraiseur. Vous voyez, avant de faire médecine, tourneur-fraiseur, moi, j'ai fait du dessin industriel, de la technologie de construction, de la technologie des matériaux. La table sur laquelle on est, là, c'est moi qui l'ai construite. Vous voyez, donc j'aime bâtir, j'aime construire. Donc, on a évoqué Antarctica, Polar Observer, etc. J'en ai fait. Et donc, je disais, c'est une entreprise au sens, il y a une idée. Ensuite, il faut s'occuper du financement, de l'organisation, vous voyez, de la logistique, des aspects administratifs, juridiques. Vous voyez, c'est une vraie entreprise de monter une expédition. Et donc, j'ai cette expérience depuis 40 ans, vous voyez, depuis que j'ai commencé. Et quand vous montez un projet comme ça, n'importe quel projet d'ailleurs, tout ce qui nous écoute, il faut sortir les antennes. Il faut capter tout ce qui peut enrichir le projet. C'est comme ça qu'on le construit, c'est comme ça qu'on tient, parce qu'on a des moments de découragement, vous voyez. Ça fait 12 ans que je travaille sur le Polar Pod, mais je sais que c'est un bon projet. Quand je parle de mes expéditions, je fais la liste un peu des expéditions où quelqu'un d'autre l'a fait à ma place, et donc ce sentiment que ma vie est une succession de succès, vous voyez, comme si je passais d'un sommet à l'autre avec facilité, et je dis tout le temps, c'est un peu comme si vous regardez une chaîne de montagnes avec des jumelles, vous voyez. Vous avez l'impression que les sommets sont un peu les uns sur les autres, vous n'avez pas l'idée de l'immensité des vallées qui les traversent. Et c'est pareil, c'est des vallées de doute entre toutes les expéditions que j'ai pu faire. Mais ce que je retiens, c'est que une idée, c'est précieux. On n'a pas tous les jours quelque chose qui vous fait lever le matin en se disant « waouh ». C'est ça que je veux faire. Vous voyez, de temps en temps, il y a eu un désir, un souhait qui se construit, qui devient un petit peu plus fort, qui s'organise chez vous. Moi, j'appelle ça, c'est un peu comme une rencontre amoureuse. C'est de la chimie, vous voyez. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'on y tient. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, je peux vous dire d'expérience, il se présente trois choses. Il faut y consacrer du temps, du travail, de la persévérance.